favela no ar, no ar.
Na favela humildade fez sua morada. Na favela só quem é anda de madrugada. Na
favela, oh, favela, oh, favela que me viu nascer. Só quem te conhece por dentro pode te entender. Favela.
On va avoir le sens du rythme et du flow ce soir dans le rendez-vous. En direct sur France Culture, il sera question du Brésil, de rap, du Bronx, de favela, de cork mirage, d'apostrophe et même de ça se discute avec Gilles Lapouge qui signe Nuit tranquille à Belém, un roman sur un trouble d'identité ou comment Gilles Lapouge réécrit ses souvenirs du Brésil par le biais d'une fiction romanesque, Zoé Sfez.
Un roman où le temps, les frontières, les souvenirs se dilatent, rien d'étonnant pour ce très grand voyageur qui fut aussi l'une des grandes voix de France Culture.
19h30, la chronique cinéma de Jean-Marc Lalanne qui est encore au Festival de Cannes. 19h35, plateau rap avec Akhenaton qui signe Hip-Hop du Bronx aux rues arabes. Une exposition géographique sur l'histoire du hip-hop de l'Amérique au monde arabe en passant par la planète Marseille. Benoît Lagane.
Dayam à Lima, Akhenaton expose en creux son histoire du hip-hop ou comment celui qui est né sous l'influence des machines américaines construit aujourd'hui une internationale du rap.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture d'Adrien Nazelli jusqu'à la fin de la semaine. On ouvre d'abord sur le son du jour.
Les mots ont été pris au sérieux au point de pouvoir déterminer des réactions criminelles dans les lecteurs. Ça, c'est un succès extraordinaire. Je ne suis pas le porte-parole de personne, je suis le porte-parole de moi-même. Mais je suis quelqu'un qui porte l'écoute de certaines personnes qui n'ont pas l'accès à un écoute publique.
Bonsoir Adrien Nazelli.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour, il ne date pas d'hier.
La voix de l'écrivain italien Eri De Luca, parce que c'est aujourd'hui qu'il est auditionné pour la première fois dans ce procès avec le gouvernement italien, qu'il accuse d'incitation au sabotage de la ligne de train Lyon-Turin. Salle comble ce matin au palais de justice de Turin, une centaine de soutiens portaient des badges Io sto con Eri, je suis avec Eri. L'écrivain expliquait que le mot saboter peut vouloir dire gêner ou faire obstacle sans forcément appeler à la violence. Il encourt en tout cas jusqu'à 5 ans de prison. La prochaine audience aura lieu le 21 septembre.
Et tout de suite, on passe au dossier du jour. Annulation du concert du slameur Grand Corps Malade qui devait avoir lieu demain. Ça se passe au Blanc-Ménil. Une décision du maire que le chanteur dénonce comme une censure. Il est même soutenu par la ministre de la Culture, Fleur Pellerin. Ce conflit s'inscrit dans une année mouvementée pour la culture en Seine-Saint-Denis.
La tournée de Grand Corps Malade, Funambule Tour, a commencé en janvier dans de nombreuses villes de France. Le chanteur attendait avec impatience ce concert au Blanc-Ménil, sa ville natale. Mais la semaine dernière, un courrier recommandé lui signifie l'annulation du concert pour un problème d'assurance. En fait, le problème est autre. Grand Corps Malade voulait faire monter sur scène son ami Rachid Taxi, connu comme un opposant politique du nouveau maire UMP.
Rachid Taxi, à chaque fois qu'on joue en banlieue parisienne, comme il est natif du Blanc-Ménil, il monte très très souvent avec moi sur scène justement pour chanter ce duo Inch'Allah. Et du coup, il nous a fait savoir qu'il ne souhaitait pas qu'il monte sur scène. Là, il nous a fait part de leur crainte, que ça se transforme en meeting politique. Mais en plus, on leur a promis, on leur a écrit noir sur blanc, on le ferait pas parce qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour faire la fête, pour chanter, pour partager un moment de culture et de poésie avec le public. Alors que malgré ces écrits-là, il annule le concert. Bon voilà, là c'est de la censure pure et simple. C'est un procès d'intention. C'est-à-dire que a priori, il pense qu'on va faire des déclarations sur lui. Je trouve ça assez grave parce que là, on est dans un cas de censure quand même avéré. Et voilà, c'est pas négligeable comme situation. Quoi.
Pour le maire Thierry Ménien, il ne s'agit pas de censure. Il estime qu'il a annulé le concert parce que le contrat n'aurait pas été respecté par Grand Corps Malade.
Cette décision m'a été imposée. On n'a pas eu même le courage, la loyauté de me dire qu'on allait inviter sur scène quelqu'un qui n'est pas le bienvenu dans le contexte du Blanc-Ménil. Alors qu'il chante ailleurs, ça n'a pas d'incidence, mais au Blanc-Ménil, ça ne pouvait pas échapper à Grand Corps Malade. L'artiste est propriétaire de ses textes et de son spectacle, il n'est pas propriétaire de la salle. J'ai appris par la rumeur et par les blogs de ce monsieur qui était censé monter, qu'il allait monter sur scène et qu'il allait en profiter pour allumer le maire. Si Grand Corps Malade avait eu la courtoisie de m'appeler, j'aurais attiré son attention sur le fait que c'était pas une bonne idée, et s'il m'avait rassuré d'entrée de jeu, peut-être qu'on aurait pu discuter. Mais là, ça s'est passé dans mon dos, et la personne disait « je vais en profiter pour allumer le maire ». C'est totalement déloyal, monsieur.
Cette affaire s'inscrit dans un contexte culturel plutôt difficile au Blanc-Ménil depuis l'élection de Thierry Magnien aux dernières municipales.
En novembre dernier, la subvention du forum du Blanc-Ménil, c'est une scène conventionnée, n'a pas été renouvelée. Pour le maire, la salle coûtait trop cher et elle avait une programmation trop élitiste. Elle a été rebaptisée en théâtre théâtre neuf, financé donc maintenant uniquement par la ville. Une configuration qui inquiète le président du Conseil général de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel.
J'ai l'impression qu'il y a une offensive politique contre la culture, contre la création culturelle. C'était donc le cas hier avec le déconventionnement du forum culturel et donc l'idée profondément populiste qu'il y aurait à travers la création artistique, à travers la création contemporaine, une volonté de ne pas mettre à disposition des spectacles accessibles. Mais c'est pas au contraire. Tout le travail d'un établissement comme celui du Forum, c'était justement d'avoir une grande exigence artistique. Et donc là, avec cet acte supplémentaire de vouloir encadrer, maîtriser la parole artistique, on voit bien qu'il y a, après la victoire électorale, la volonté de mener une bataille culturelle et idéologique de la part de cette nouvelle municipalité. J'ai voulu dire très clairement qu'en Seine-Saint-Denis, il n'y a pas de territoire interdit pour un artiste comme Grand Clan Malade. Ça, je ne peux pas l'accepter.
Le président du Conseil général de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, qui est au PS, a donc décidé de mettre à la disposition de Grand Corps Malade un collège du Blanc-Ménil pour qu'il donne son concert. Il aura lieu le 12 juin prochain. En attendant, un rassemblement citoyen se tiendra demain à 19h, place de la Libération au Blanc-Ménil.
Peut-être une réaction de votre part, Akhenaton. Tout à l'heure, j'ai vu que vous vouliez prendre la parole.
Non, je souriais doucement parce que ce sont des manifestations qui vont très bien avec l'atmosphère actuelle. Et ce n'est pas l'unique annulation qu'il y a dans la semaine, puisqu'apparemment on m'aurait dit qu'il y avait des tentatives d'annulation du concert de Lino et de Alonso, qui sont deux rappeurs assez connus, ouais, au Festival d'Orléans. Le maire n'aimerait pas les paroles. Donc on est dans une période vraiment très particulière, où maintenant on commence à interdire les artistes qui ne plaisent pas aux mairies. Voilà, ambiance.
Vous-même, dans votre propre parcours, j'imagine que ça vous est arrivé?
À Béziers et à Orange, on a eu des petits problèmes. On peut organiser une petite tournée pour les artistes qui ne sont pas les bienvenus sur d'autres...
Ils n'aiment pas les paroles,
Gilles Lapouge.
D'un point de vue artistique ou bien pour d'autres raisons?
Je ne sais pas la raison profonde, mais même si on
n'aime pas... Je ne crois pas qu'ils aient fait un commentaire de texte, hein, vous savez. Je pense qu'ils n'aiment pas les paroles pour simplement ce qu'elles véhiculent.
Oui, pour ce qu'elles véhiculent.
Pour ce qu'elles disent, tout simplement.
C'est compliqué d'interdire les représentations artistiques sur scène, à moins que ça appelle vraiment la haine, et je pense pas que dans ces artistes-là ce soit le cas.
Eh bien, on passe au bref.
Le peintre allemand Eckhard Drewke est mort à l'âge de 75 ans. Il s'est noyé dans le Grand Canal de Venise pendant qu'il prenait un bâtiment en photo. En fait, il a tout simplement perdu l'équilibre. Le peintre travaillait sur une nouvelle série de tableaux consacrés à la ville. Il profitait de la Biennale de Venise pour faire des repérages.
Laurent Vallée prend la tête de l'INA.
Nommé par le Conseil des ministres, il vient de l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles. Laurent Vallée succède à Agnès Sahl. Fleur Pellerin lui avait demandé de démissionner après la révélation de ses frais de taxi le mois dernier.
Et la dernière.
C'est une histoire de gens qui veulent rester chez eux. Vous connaissez le festival Étonnant Voyageurs qui, depuis 1900, célèbre à Saint-Malo la littérature des grands espaces. Eh bien, figurez-vous que le festival a de la concurrence, puisque vendredi, ce sera la première édition des épatants sédentaires à Saint-Milou. Alors, c'est pas à Saint-Malo, c'est à Saint-Milou, en Charente.
Ça existe, Saint-Milou.
Ça existe vraiment.
Mais bien sûr.
Ils ont fait exprès. Saint-Milou, c'est un tout petit village de 111 habitants. Et selon le dossier de presse, en tout cas, ils détestent tous les voyages et personne n'a jamais mis le pied en dehors de Saint-Milou. C'est
comprendre.
Très bien.
Un village de résistants. Au programme de leur festival, on aura des lectures d'auteurs très casaniers, comme Le voyage autour de ma chambre de Xavier de Maistre, La salle de bain de Jean-Philippe Toussaint ou encore Intérieur de notre Thomas Clair.
J'ai de la poule, ça vous fait rire. Parce que Étonnant Voyageur, vous connaissez ça.
Je connais très bien, oui. Je n'ai jamais manqué, je pense, une session.
Et épatant sédentaire, c'est pas du tout votre cas.
Je suis, au fond, fondamentalement, je suis sédentaire, mais par mon métier, puisque je suis journaliste, et au Brésil en plus, je passe mon temps dans des avions, mais ça n'est pas vraiment, je suis pas un vrai voyageur comme les grands Nicolas Bouvier ou autres. Je suis un voyageur par nécessité, mais je me débrouille bien et ça m'amuse.
On se retrouve demain pour la suite de ce journal de la culture.
À demain.
J'imagine que vous disiez une petite phrase à ce moment-là.
Demain? Ah oui, bah écoutez Laurent, je vais vous dire, vous pouvez réécouter et podcaster
et voilà,
ce journal sur
le
site franceculture.fr.
Pendant combien de jours?
Pendant 1000 jours.
C'est ça l'important.
Le rendez-vous.
Céu, ai, por que tamanha judiação? Eu pergunto.
plateau en étrange pays avec vous, Gilles Lapouge, journaliste correspondant pendant 56 ans du journal brésilien Estado do San Paulo et puis écrivain, auteur d'une œuvre protéiforme, roman, essai, dictionnaire, dont le dictionnaire amoureux du Brésil publié en 2011. Et puis bien sûr une voix culte de notre chaîne France Culture. Vous signez aujourd'hui Une nuit tranquille à Belém aux éditions Artaud, une plongée dans le Brésil que vous connaissez bien. Votre héros est journaliste, comme vous, partage les mêmes souvenirs que vous. Il est en reportage dans la ville de Belém do Pará, au Brésil. Le mec, il se la joue à fond. Pour enquêter sur Blaise de Pagan, le géographe de Louis XIV. Et là, il croise un jeune garçon des favelas qu'il croit reconnaître en lui, son père disparu il y a plusieurs années. Votre héros ne va pas le détromper, il va te suivre et démarrer une nouvelle vie dans les favelas de Belém pour tenter de découvrir et d'endosser l'identité de l'homme violent et volage qu'il est censé être. J'ai lu, en fait, que vous aviez déjà raconté il y a longtemps cet épisode d'un petit garçon qui vous prend pour son père. Vous l'auriez réellement vécu ?
Je l'ai vécu, oui. Je l'ai vécu et ça me trotte dans la tête depuis 30 ans. Ça ne se passait pas à Belém do Pará, ça se passait à São Paulo. J'attendais un ascenseur en bas d'un gratte-ciel, d'un prédio. Et exactement la première scène du roman, c'est-à-dire l'ascenseur arrive, les portes s'écartent, et il y a les gens sortent, et un petit gosse, tout petit, de 8 ans, 9 ans, très maigre, il n'avait pas de chemise, pauvre manifestement, il bondit sur moi, il me grimpe dessus, et il dit « Oh papa, papa, tu es revenu !»« Oh papa, et papa, il vaut ses volto !» Alors, moi je suis interdit parce que je suis pas son père. Et puis il se tourne vers l'ascenseur, vers les gens de l'ascenseur, et il dit « Meu papai, isto é meu papai. » Ça c'est mon papa. Il revient. Alors j'étais ennuyé moi. Et puis en même temps, je savais pas que dire parce que j'ai toujours dans ma vie la tentation d'être un peu un autre, c'est-à-dire de sortir de mon destin et de trouver une bifurcation comme ça, comme sur une autoroute, on change et on se trouve à 1000 kilomètres de l'endroit où on veut aller. Alors, ben évidemment, je lui ai dit non, c'était pas possible. Et c'est le départ. Depuis, je pense à ça et là, j'essaye de régler ce souvenir.
Par la fiction, l'occasion était trop belle. Zoé Sfez.
Alors justement, le Brésil, c'est un pays que vous connaissez extrêmement bien. Vous l'avez découvert en 51. Alors visiblement, sur les conseils de Fernand Bredel, j'ai lu ça, qui vous a indiqué que le quotidien brésilien au Estado do São Paulo cherchait un correspondant. Alors qu'est-ce que la découverte de ce pays-là, à ce moment-là, en 51, a déclenché chez vous ?
J'arrive en 51, ça fait donc 65 ans que je travaille dans ce journal, et non pas 56, c'est 65. J'arrive en 51, on m'accueille magnifiquement à Rio, à Copacabana, à Copacabana Palace, c'est-à-dire brusquement, un petit Français de rien du tout qui se trouve à Hollywood, enfin c'était prodigieux. Et le matin, j'ouvre mes fenêtres et je vois la plage de Copacabana qui est magnifique, avec la mer, le sable, l'or, etc. Et ces noirs qui balayent paresseusement la plage. Et il y a quelques jours, il y a 15 jours exactement, j'étais là à Rio, dans le même endroit. Après 65 ans, j'ouvre la fenêtre et je vois le même tableau. C'est-à-dire que j'ai vu il y a 15 jours 65 années de ma vie, comme ça, en accéléré. C'était un vertige. Alors tout ça pour vous dire que quand je suis arrivé, venant de France, qui sortait de la guerre à peine, j'ai cru tomber dans le paradis et surtout j'ai eu le sentiment, je me suis dit, mon destin c'est là. Et il me semble que je continue jour après jour, quand je vais là-bas, entendre se déployer ce destin comme une fleur qui continue de se déployer.
Akhenaton, vous connaissez aussi le Brésil ? Vous y avez chanté, j'imagine ?
Pas du tout.
Jamais
c'est
produit.
C'est un des rares pays où on a eu l'occasion en 1991 d'y aller, puisqu'il y avait un groupe qui s'appelle Racionais qui nous avait demandé de faire une collaboration avec eux. Et puis ça s'est jamais fait. Du coup, on n'est jamais allé au Brésil. Je pense qu'on a envie d'y aller de belle manière. Malheureusement, on a été prisonnier d'un gros succès qu'on a eu sur notre territoire et puis de grosses tournées qu'on faisait justement dans les pays francophones. Et après, on était complètement épuisés quand il s'agissait d'aller vers le monde. Et c'est quelque chose qu'on fait en fait beaucoup plus depuis une dizaine d'années. Avec l'âge, ça s'agit. Donc on diminue les tournées sur notre territoire et on prend vraiment plus le temps d'aller à l'étranger. Donc du coup, ça nous a permis de faire là récemment une tournée aux États-Unis, mais en Chine, Asie du Sud-Est, en Afrique bientôt.
Parce qu'en plus, le rap brésilien est très, très fécond.
À dire ces petites choses dans un article au journal brésilien ?
Bien sûr.
Ouais, bien
sûr, ça va avec grand plaisir qu'on vienne. Je pense aussi qu'il y a une grosse culture du hip-hop.
C'est énorme.
C'est quand même un pays qui a accueilli énormément de descendants d'esclaves et qui mélange énormément de styles différents musicalement, qui incorpore à la fois de la musique africaine, mais de la musique aussi du indienne, et qui mélange beaucoup d'influences.
Vous confirmez, Gilles Lapouche, justement, sur cette effervescence du rap
au Brésil ? Surtout l'aspect sur lequel vous insistez, c'est-à-dire le côté melting pot de cette musique. Il y a tout. C'est exactement, vous avez la feijoada qui est leur plat national, c'est un plat d'esclaves, c'est-à-dire que quand le maître, qui était richissime et égoïste comme certains riches, avait terminé, on jetait la nourriture aux esclaves, avec ça ils ont fait la feijoada qui est leur grand plat. Et c'est un petit peu la même chose, la musique, c'est aussi une espèce de bricolage avec la totalité des musiques du monde, qui connaissent admirablement, et ce sont des grands techniciens.
Ah oui, des grands techniciens, des grands musiciens d'ailleurs. Ils ont créé un style à eux, dérivé de l'électro du début des années 80 à New York et à Miami, et ce qui s'appelle Ballet Funk. J'ai vu un reportage dessus, c'est une musique qui est uniquement une musique brésilienne, et c'est dans le reportage que j'ai vu, c'était impressionnant.
Transition.
Transition, justement, puisque on vous a demandé, Gilles Lapouche, comme à tous nos invités depuis le début de cette saison, de nous apporter un son, et justement, vous avez choisi un son musical.
Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes ah.
Identification de ce son est la raison pour laquelle vous l'avez choisi.
Oui, parce que c'est une... Bon, elle est très connue, cette musique. Il y a eu, je crois, 300 interprètes depuis 30 ans. C'était juste avant la dictature. Donc ce sont les derniers beaux jours, belles saisons de Rio, qui a été une ville inoubliable. À ce moment-là, ceux qui ont connu ça ne l'oublieront jamais. Et immédiatement... Alors cette jeune fille...
La fille d'Ipanema, oui. La jeune fille
on l'a cherchée, on l'a recherchée, on l'a retrouvée. C'est une jeune fille qui avait 19 ans à l'époque, qui était magnifique, et qui est passée devant un café où se trouvait Vinicius de Moraes, qui est le poète, et Jobim, qui est le musicien. Et on a recherché cette fille, on l'a trouvée, elle est charmante, elle est très très belle, elle était très belle. Et le café a changé de nom, maintenant c'est au café da Garota de Ipanema. Et la rue s'appelle Rua Vinicius de Moraes, c'est-à-dire de... Et Vinicius était un type extraordinaire, c'est un ambassadeur. Il a travaillé avec Orson Welles. Ouais. Et c'était un homme de café quand même.
Et de femme.
Et de femme, oui. Et il recevait les gens dans son bain. Il était étonnant comme type.
Vous l'avez rencontré ?
Non, je ne l'ai jamais rencontré. Je connais beaucoup de ses amis, mais je ne l'ai jamais rencontré. Et voilà, c'était un génie, enfin, merci. Ils étaient tous des hommes de café. Et d'ailleurs, on raconte toujours que Jobim était un jour, quelques temps après, pas à propos de cette chanson, mais à propos de... Jobim était un type très simple, comme ça, il était au café avec ses copains, comme venait tous les jours. Il y a le téléphone sonne, et le barman vient, et puis il vient avec le téléphone vers Jobim. Il dit, ah, il y a un type qui t'appelle, là. Comment il s'appelle, ce type ? Frank Sinatra.
C'est ce qu'on entend dans cette version. Vous avez choisi un autre son, Zoé.
Exactement. On va l'entendre juste là, ce son. C'est une chanson de la chanteuse Clara Nunes qui s'appelle O Canto de Tres Razas. On peut l'entendre, ce son ? Voilà. Et alors, je vous en parle parce que dans votre livre qui s'appelle Nuit tranquille à Belém, votre personnage doit vivre la nuit puisqu'il doit échapper à tous ceux qui seraient tentés de le reconnaître et parfois de se venger, notamment les femmes. Et alors, vous dites dans ce livre que la nuit brésilienne, en tout cas vous pensez au début, est dure et froide et que les fêtes brésiliennes sont tristes. C'est ce que dit Clara Nunes dans cette chanson. Elle dit qu'on n'entend jamais le sanglot dans la chanson brésilienne. D'où vient cette tristesse selon vous ?
Moi, je crois qu'ils aiment la tristesse. parce qu'on raconte en général, ils font la fête pour être gays. En réalité, je crois qu'ils font la fête pour être tristes. Ils adorent la tristesse, ils adorent la saudade, c'est-à-dire le remords éternel, le regret. Pourquoi ? Parce que c'est un pays qui est quand même fait avec, en grande partie, des anciens esclaves. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils regardent l'Afrique, d'où ils viennent. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais pénétré dans le fond du Brésil. Ils sont restés toujours sur le bord du Brésil, comme ils étaient à leur balcon, regardant le Portugal et l'Afrique. Et il y a cette chose extraordinaire, les esclaves, au moment du pire de l'esclavage, eh bien, ils partaient, ils allaient à la plage et ils nageaient vers l'Afrique. Et ils savaient qu'ils allaient couler au bout d'un 2 kilomètres.
Il y a quelque chose de particulier qui ressemble énormément, je pense que c'est très latin. On est d'origine napolitaine, à Naples, dans la chanson napolitaine, qui peut être extrêmement gay comme extrêmement triste. Des chanteurs disent on chante parce qu'on est heureux d'être triste.
Exactement ça.
C'est quelque chose qui est en commun. Notamment, je pense que Sao Paulo, j'ai appris récemment que c'était la plus grande ville italienne après Rome.
C'est la plus grande ville italienne, oui.
Et japonaise aussi, d'ailleurs.
Japonaise aussi, la plus grande ville du nord-est brésilien, bizarrement, alors qu'elle est au sud-est, parce que tous les pauvres du nord-est viennent à São Paulo. Donc c'est une ville, là aussi, un melting pot total. Ouais.
Retour au roman, parce que dès le début du roman, vous vous révoltez contre le fait d'être né dans un lieu donné, digne, et dans un temps donné, 1923. Une citation revient 2 fois dans le roman. Par moment, j'ai la nostalgie d'endroits que je ne sais pas moi-même. Ça veut dire quoi pour vous véritablement ?
Ça veut dire que je trouve tout à fait arbitraire le sort qui m'a été infligé, qui est le sort de tout humain, c'est-à-dire naître, on ne sait pas où, on ne choisit rien, ni son père, ni sa mère, ni son grand-père, ni rien. On choisit ni la forme de ses yeux, de son nez, on ne choisit rien, on a notre petit uniforme comme ça, et on tombe dedans. Et moi, ça tombe bien parce que je suis très content de ma famille était très gentille, j'aime bien la France, etc. Mais en même temps, je me dis, mais pourquoi est-ce que on subit cet arbitraire fabuleux au début de sa vie, au lieu de pouvoir grignoter un petit peu partout et ramasser un destin, se faire soi-même son destin. Et tout le livre au fond ne répond pas, mais pose cette question qui est pour moi une question très sérieuse. Ça paraît des fois un peu baroque, mais pour moi c'est fondamental. C'est-à-dire, au fond, c'est une question. Je pense que tout le monde se pose dans son adolescence. Moi, mon adolescence dure longtemps et je continue de me la poser. Pourquoi suis-je moi ?
De toute façon, c'est le roman qui vient, on va dire, continuer la part d'arbitraire, enfin, qui vient plutôt corriger la part d'arbitraire que vous aviez au départ. Quelle était la place de la culture dans votre enfance, justement, Gilles Lapoule ?
C'était une petite culture de la bourgeoisie moyenne. Petite culture très classique. On trouvait que Verlaine était trop moderne, par exemple.
Oui.
Et Musset, c'était bien, par contre.
Alors, vous êtes intéressé beaucoup aussi dans votre vie, au-delà du fait que vous êtes journaliste, à la géographie, à la notion de frontières. Vous avez consacré plusieurs livres à cette question-là, Légende de la géographie, La mission des frontières. Elle est présente justement dans ce roman à travers cette figure très étrange de Blaise de Pagan, donc qui est considéré comme le meilleur géographe de Louis XIV. Et la légende veut qu'il soit devenu aveugle et qu'il ait dessiné de mémoire toutes les cartes qui ensuite ont été utilisées à l'époque par les navigateurs français. Alors, qu'est-ce que cette figure-là, elle dit de votre conception de la géographie ? Peut-être des frontières.
Oui, mais c'est toujours un petit peu, vous avez raison de mettre tout cela ensemble, c'est un petit peu la même question. Alors pour Blaise de Pagan, c'est pas seulement la légende, on dit qu'il était aveugle, qu'il est devenu aveugle, parce que Louis XIV aurait imaginé de faire une colonie à partir de la Guyane, dans le nord de l'Amazonie, dans l'Amapá. Et il aurait envoyé Blaise de Pagan, son grand géographe, pour faire un relevé et faire des cartes qui serviraient aux soldats pour envahir ce pays. Et Blaise de Pagan serait devenu aveugle, moi je le crois pas, mais enfin c'est ce qu'on dit, serait devenu aveugle, mais il ne pouvait pas l'avouer à Louis XIV parce qu'il aurait perdu son appartement au palais de Versailles. C'était un personnage considérable, hein, il était aussi important que Vauban, il était général d'ailleurs. Mais il aurait perdu son appartement, il avait une femme, des enfants, et ça aurait été un drame. Donc, il n'a pas dit qu'il était aveugle, et il a quand même accompli son métier, c'est-à-dire qu'il a fait des cartes, une cartographie de cet endroit-là, qui est complètement imaginaire, puisqu'il ne voyait rien. Alors, bon, je raconte ça, et puis ça fait partie de mon interrogation, mais les aveugles m'intriguent beaucoup. J'ai connu un aveugle extraordinaire qui habite à Paris, d'ailleurs, il est toujours là. Il est professeur d'esthétique et il est photographe. Un aveugle complet. Alors, comment il m'a photographié, d'ailleurs. Comment fait-il ses photos? Il a des assistantes qui sont là, et il vous dit, bon, mettez-vous là, tout ça. Et après, l'assistante lui décrit la photographie. Ah. C'est extraordinaire.
Il y a un élément aussi qui revient souvent dans le roman, c'est la pluie. Elle revient de manière récurrente dans le livre et dans votre dictionnaire amoureux du Brésil, paru en 2011, il y avait déjà une entrée intitulée « Pluie de Belém ». Qu'est-ce qu'elle a de particulier pour être associée à cette ville ?
À cette ville, parce que j'ai été sous la pluie à Belém. Et que je raconte dans le dictionnaire une histoire vraie, c'est-à-dire j'étais jeune, tout ça, un peu comme quand on est jeune, on est un peu bête, et j'essayais de draguer une jeune fille, et je me dis, ça y est, ça, j'ai gagné. Et elle me dit, bon, ben, on se voit demain après la pluie. Parce que la pluie est récurrente et toujours au même moment. Mais c'est compliqué, c'est comme la marée en Bretagne, ça change tout le temps. Et eux savent, mais moi je savais rien. Alors le lendemain je suis venu, il n'y avait pas la jeune fille, il y avait la pluie. Et pendant 15 jours, je suis revenu dans ma pluie. J'étais dans un état lamentable, je n'ai jamais revu la jeune fille. Alors ou bien je me suis trompé dans mes calculs météorologiques, ou bien cette jeune fille se foutait de moi.
On ne saura jamais, on préfère se dire que vous étiez mauvais.
Elle a la solution.
Alors quand même, on va revenir vaguement. Vous êtes quand même avant tout un journaliste. D'ailleurs, vous dites que votre première identité, c'est ça. Vous avez travaillé d'abord pour Combat, puis quelques mois au journal Le Monde, puis pour Le Figaro littéraire. Vous avez ensuite ouvert la succursale brésilienne du Figaro au Brésil. C'est vrai, ça ?
Non, pas du tout.
Ah, alors voilà, c'est une information. Mais alors, en tout cas, à Figaro littéraire, vous avez rencontré Bernard Pivot. Oui. Et alors, on le sait peu, mais c'est avec lui, vous participiez à la création de l'émission Apostrophe. Et ensuite, vous l'avez abandonné. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter ce poste?
Parce que c'était ouvrir les guillemets, c'était pas Apostrophe. Ouvrir les guillemets, c'était extrêmement littéraire et c'était des petits compartiments. Il y avait un compartiment pour Pivot. Moi, je faisais quelque chose. Je parlais d'un livre. Bon, et ça me plaisait assez. Et puis après, ils ont changé. Ça pour avoir un public plus large, à juste titre d'ailleurs, et ils ont fait Apostrophe, qui est devenu un grand débat. Et dans ce débat, on ne peut pas, enfin moi c'est comme ça que j'ai éprouvé les choses, on ne peut pas être deux pour diriger un débat. L'émission en plus était de Pivot, et moi j'étais là comme une pièce rapportée, je savais pas que dire. Pivot, très gentiment, m'a dit « tu restes autant que tu veux », mais moi je voulais pas. Et à ce moment-là, on m'a proposé de faire un voyage de 6 mois tout seul dans le nord-est du Brésil, et comme je m'intéressais au voyage, j'aimais écrire aussi. J'ai choisi ça, j'ai expliqué tout ça à Pivot, qui l'a parfaitement bien compris. Et on est toujours aussi amis, mais je n'ai pas continué avec lui. Mais j'étais très heureux avec Pivot, et surtout, c'était une expérience fabuleuse, puisqu'on ne connaissait ni l'un ni l'autre la télévision, on ne connaissait rien. Et on nous a lancé là-dedans, et vous connaissez la suite.
Le rendez-vous, la chronique.
Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Laurent.
Bonjour les Canois. Plus que quelques jours avant la fin des festivités, le palmarès, ce sera dimanche prochain. J'imagine que vous avez déjà vos propres pronostics.
Oui, j'ai l'impression que l'Italie a toutes ses chances pour avoir la palme cette année pour deux candidats. D'abord, il y a le Moretti qu'on a vu le week-end dernier. Moretti a déjà eu la palme avec un film qui s'appelait La chambre du fils.
Une histoire de deuil, hein.
Voilà, une histoire de deuil, et c'est à nouveau une histoire de deuil, sauf que cette fois, c'est pas l'enfant de la famille qui meurt, mais la mère. Et c'est un film qui est aussi émouvant que La chambre du fils, mais avec l'injection de la part la plus trublionne et comique du cinéaste Moretti, et ça marche sur la rupture de temps permanente. C'est vraiment de l'artisanat très réussi. Je trouve pas que ça ferait une palme très excitante, parce qu'il a déjà eu, parce que c'est quand même un cinéma très classique, mais pour l'instant c'est un peu en compétition ce qu'on a vu de mieux. Et l'autre italien, c'est le film de Paolo Sorrentino qui s'appelle Lius, et qui est avec Michael Caine et Harvey Keitel, et qui pour moi est vraiment un énorme navet. Oui. Mais qui a malgré tout déclenché des applaudissements lors de sa présentation ce matin. C'est ce soir la présentation officielle. Le film est très coté. Pour moi, le film de Sorrentino, c'est vraiment un cinéma extrêmement racoleur, extrêmement appuyé dans ses effets. Et je serais vraiment désolé que ce cinéma-là remporte la palme.
Alors, pour l'instant, vous nous donnez deux palmes pas très excitantes. Une dont vous vous défiez, l'autre que vous acceptez presque par...
J'aime assez le film de Moretti, hein, quand même.
D'accord. Mais sinon, quelle serait votre palme à vous?
Alors, ma palme, moi, je la...
La palme de l'ennui, Jean-Marc.
Alors, il y aura des gens qui penseront ça. Mais moi, je remettrai un film qui n'est pas en compétition, qui est le film d'Apichatpong Berazetakul, qui lui aussi avait eu la palme avec
ouais.
Un coup de mie il y a 5 ans. C'est donc ce Thaïlandais contemplatif qui revient là à un certain regard, donc une section parallèle. Et le film, je trouve éblouissant. C'est-à-dire que c'est aussi beau qu'en Club Bunmi. Je ne m'explique absolument pas qu'il ait été écarté de la compétition. Et c'est un film d'une poésie, d'une originalité, d'une audace totalement sidérante, et pour moi c'est le plus beau film que j'ai vu à Cannes cette année.
Et ça parle de quoi cette fois-ci?
Alors c'est toujours d'esprit de singes du 14e siècle qui reviennent.
Ah ouais.
Enfin non, c'est toujours très ésotérique, mais quand même il y a quand même une trame. Ça se passe dans un village où il y a des militaires qui sont dans le village et qui un à un tombent victimes d'une mystérieuse maladie du sommeil. Et il y a une vieille dame qui va s'occuper d'eux et les traiter comme ses grands enfants endormis. Et c'est vraiment très très beau, quoi. C'est un film qui est toujours à la limite du songe, c'est très très beau.
La semaine dernière, vous nous parliez de deux films qui avaient eu droit à vos coups de cœur, c'était Mad Max et le film de Desplechin, dont on a parlé hier avec le réalisateur ici même au rendez-vous. Depuis le temps a passé, il y a eu d'autres films?
Le film d'Apichatpong Berazetakul,
dont on vient de parler, d'accord.
Mon préféré. Et aussi le film de Miguel Gomes, un film portugais d'un cinéaste qui avait fait Tabou. C'est trois films qui racontent les problèmes économiques du Portugal, mais à travers les codes du conte et des mille et une nuits. Et c'est une proposition de cinéma assez interloquante d'originalité.
Pourquoi vous dites trois films?
C'est-à-dire que c'est trois fois deux heures et les films sont présentés à raison d'un film tous les deux jours. Mais c'est une seule œuvre. C'est-à-dire qu'il y a trois volets.
Et la découverte, ce serait
C'est un film turc qui s'appelle Mustang, d'une jeune fille, Denise Arguzan, qui est turque, mais qui a fait la FEMIS, et qui livre un premier film où elle raconte l'adolescence de cinq jeunes filles de la bourgeoisie turque qui vont toutes les cinq avoir un mariage imposé, et donc épouser un mari qu'elle ne désire pas, jusqu'à ce que la dernière se révolte. Et le film, c'est à la fois un film politique et social, mais qui emprunte au code du teen movie américain, et plus précisément encore de Virgin Suicide de Sofia Coppola. Donc c'est éthéré, ouaté, et en même temps ça dit des choses assez bouleversantes sur la psyché d'une jeune fille turque à qui on impose des choses aussi violentes qu'un mariage et une sexualité. C'est vraiment, je pense que le film pourrait avoir la Caméra d'Or, qui est le prix remis au meilleur premier film du festival.
Bon, ben merci Jean-Marc pour ces pronostics. On se retrouvera la semaine prochaine ici même. Juste une précision, vous l'avez trouvé le colis qui est sur la croisette?
Je ne vois pas de quoi vous parlez.
À la semaine prochaine, merci.
À la semaine prochaine.
Parce que Zoé, vous ne voyez pas non plus ce que c'est. C'était juste par rapport à la une de Charlie Hebdo.
Ah, le fameux colis Catherine Deneuve.
Exactement. Je voyais réagir à cette chronique à Kenaton. Vous ne partagez pas les mêmes goûts de cinéma, manifestement.
Non, pas du tout même. Mais,
ah oui, d'accord.
Mais vous avez été beaucoup plus dur que mes rires à moi, hein, parce que vos questions, elles étaient un peu...
Ce sont des questions, on les interprète comment?
Elles étaient un peu acides parfois. Non, mais
vous, quel est le cinéma que vous aimez?
Moi, je suis assez grand public sur le cinéma. Je note pas c'est vraiment une question de goût personnel. Il a parfaitement le droit de dire, puis c'est son métier de...
En plus, il aime le cinéma grand public. Il aime Mad Max. Il
voilà,
y a aucun problème par rapport à ça.
Exactement. Moi, par contre, un film qui esthétiquement a des longueurs, nie l'esthétique et a des longueurs et raconte des histoires banales qui me transportent pas. Pour moi, le cinéma, c'est du rêve. Et dès qu'on est dans le concret, trop ancré dans la réalité, c'est un bon documentaire, mais ça fait pas un
d'accord.
Film.
Quel est le cinéaste, par exemple, vous, qui vous a marqué?
Mais ce serait plusieurs. S'il y en a un ultime, moi, j'ai tellement bercé par Sergio Leone que j'ai grandi avec ce cinéaste-là.
Et de votre côté, Gilles Lapouge, vous, le cinéma qui vous anime?
Je vais presque plus au cinéma. Je n'ai pas le temps. Je n'ai plus le temps. Avant, j'y allais beaucoup. Et puis, vous savez, quand on perd une habitude, c'est comme ça. Il faut. Et maintenant, je recommence. Il faut dire que pendant un certain temps, je commençais à entendre moins bien. Donc, c'était difficile pour moi d'aller au cinéma. Maintenant, je me suis mis des petits appareils extraordinaires dans l'oreille et je vais recommencer à faire du cinéma.
Le rendez-vous.
New York City Transit, NYC Transit, ce son transpire, essence du rap, gars. NYC Transit.
To the hip hop, the hip to the hip hip hop, you don't stop the rocker to the bang bang boogie, say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat.
Plateau Face B avec vous, Akhenaton, auteur, rappeur, producteur, figure bien sûr du groupe de rap marseillais IAM, et puis désormais directeur artistique de l'exposition hip-hop du Bronx aux rues arabes qui a lieu jusqu'au 26 juillet à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Un plateau que nous avons ouvert sur un mix de plusieurs titres, Benoît Lagan.
Alors il y a Rapper's Delight de The Sugar Hill Band. Vous me passez le relais et du coup vous pensez que je vais y arriver mieux.
Moi, je n'y arrive pas. Donc moi, j'ai complètement abandonné.
C'est Sugar and Gang.
Voilà, continuez. Tunis by Night de Balti, United States of Arabia de Arabian Knits, Abdoulela de The Narcissist, Zoé Fetzfez.
Elle se moque de votre anglais. Hein.
Oui, voilà, c'est ça. Et ainsi que deux de vos titres, On rêvait New York, c'est plus simple à dire, et New York City Transit. Ça marche comme bande annonce de votre exposition. Qu'est-ce que ça en dirait?
En fait, ça explique bien ce qu'on a voulu faire. En fait, c'est une exposition sur la transmission, parce que si on avait fait une exposition qui était didactique ou historique, ça aurait été très compliqué. Moi, quand Mario Chouéry m'a proposé de faire cette expo il y a 2 ans et demi de ça, j'ai dit il faut surtout pas faire quelque chose qui explique l'histoire, sinon il faut 15 instituts du monde arabe, il faut une superficie énorme. Faisons juste quelque chose sur la transmission et sur une vulgarisation de ce qu'est cette culture, parce que je pense qu'on est dans une période où des fois il y a besoin de rappeler des choses, et notamment que cette culture est une culture ultra, ultra créative et qu'elle est la culture majeure de ces 30 dernières années. Ce n'est pas une culture qui représente uniquement une culture de délinquants chanceux ou d'animateur social qui a réussi dans la vie, mais que c'est beaucoup plus profond que ça. Alors c'est vrai que par rapport à la surface, c'était compliqué d'aborder tous les aspects de cette culture.
1100 mètres carrés à peu près, hein, c'est ça. Ouais, ce qui n'est pas énorme, hein, pour une exposition.
C'est pas énorme. Et puis il y a le DJing, beatmaking, la danse,
le graffiti
et le rap. Et puis sur 3 territoires différents, c'est quand même un espace qui est pas très grand. Et d'ailleurs, de manière très triste, les coupes budgétaires qu'il y a eu dans la culture globalement cette année et qui a affecté l'exposition ont malheureusement été au détriment de la danse, qui était un espace interactif. Et ça, c'est un peu mon regret. Vraiment, on avait défini un espace où il pouvait avoir des cours, des battles, des démonstrations, et du coup la danse est beaucoup moins représentée que ce qu'elle devait être dans l'exposition.
Vous-même, vous avez été danseur, parce que je sais que vous avez
été danseur 2 mois.
Deux mois
que je me suis aperçu sur une cassette vidéo que j'étais lamentable. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a poussé à faire du rap. Quand j'ai vu que mes potes étaient bien meilleurs que moi, j'ai dit, oh là, il va falloir que je fasse autre chose dans la hip-hop. Donc j'ai fait du graph. J'ai fait du rap très, très jeune.
Quel type de graph vous faisiez?
C'était du bubble à l'époque. Il y avait vraiment pas la variété de figures qu'il y a maintenant. Et je m'amusais. J'avais toute une collection où je m'amusais à graffer sur, je faisais des murs, des sorties sur des murs, mais aussi j'avais des tas de tickets de métro où je faisais du mini graph avec des loupes et je faisais des pièces comme des murs, mais sur des tickets de métro. Blanc et voilà, on faisait des tas de choses comme ça. C'est une culture d'acteurs. On avait un rêve, donc dans nos têtes, on se représentait cette culture-là. À partir de moi, à l'anniversaire de mes 12 ans, on m'a offert un disque. J'ai entendu justement Sugar Hill Gang et Jem Jem. J'ai entendu ces gars-là rapper. J'ai dit, mais c'est la musique qui me correspond. Donc j'ai commencé à écouter des émissions à cette époque-là et j'ai imaginé ce qu'était le rap et ce qu'était le hip-hop. Et en 1984, j'ai eu la chance, ma tante m'a dit, si tu travailles bien, je te mène dans la famille à New York, parce qu'une grande partie de ma famille est américaine.
Donc vous êtes allé 10 ans après l'éclosion, on va dire, du rap aux États-Unis, voilà. Aux États-Unis, ouais. Et qui là, vous avez rencontré là?
Alors la première année, pas grand monde, puisqu'en 1984, j'étais dans la famille italienne. Il me disait mais pourquoi tu veux connaître le rap? Qu'est-ce ça t'intéresse en quoi? Les Italo-Américains sont très basiques et pas peu ou pas intéressés par le rap dans ces années-là. Du moins, maintenant, il y a beaucoup plus d'Italo-Américains qui sont impliqués dans cette musique. Et à partir de 1985, j'avais une émission à Marseille et on rentrait en contact avec les artistes américains. Et j'en avais notamment un au téléphone qui s'appelait Dr. Jekyll, qui est André Harrell, qui est devenu le président d'MCA, qui est le mentor de Puff Daddy, qui m'a dit, si tu viens à New York, moi je te reçois, je te fais faire le tour de New York. Et grâce à André Harrell, à l'époque, j'ai rencontré Mr. Magic, Russell Simmons, qui a monté le label Def Jam, et j'ai connu, en fait, vraiment l'explosion du hip-hop aux États-Unis, en compagnie d'André, et notamment dans un club qui s'appelait Latin Quarter Club, où quand je suis rentré, j'ai vu toutes les idoles, tous les gens que j'écoutais en disque, ils étaient là physiquement présents devant moi. Pour un gamin de 17-18 ans, c'était le rêve ultime.
Alors Akhenaton, dans le catalogue que l'on peut avoir en lien avec l'exposition, vous écrivez « Je me refuse à avoir l'état d'esprit qu'on a reproché pendant des années aux Américains, c'est-à-dire avoir l'esprit fermé sur d'autres formes de hip-hop. Et très tôt, j'ai fait des collaborations avec des groupes japonais, thaïlandais ou arabes. Quel regard portent aujourd'hui les rappeurs new-yorkais sur le rap arabe, par exemple ?»
Ils sont beaucoup plus ouverts qu'avant, même s'ils subsistent dans le mainstream. Alors, en fait, il y a plusieurs formes de rap. Et le rap, en fait, qui est plus underground, qui est plus alternatif, est très ouvert d'esprit. Il y a énormément de collaborations avec l'Europe, avec le Japon notamment. Mais quand ils entendent des groupes venant d'autres pays, ils ont l'impression, ils sont fiers. Et ils sont fiers de voir que dans d'autres pays, on a embrassé leur culture. Et surtout, il y a quelque chose qui fait changer la donne aussi, c'est que des rappeurs comme Narcissiste qu'on a entendu, qui sont en fait irakiens mais qui ont émigré au Canada, ou Omar Offendom qui est syrien, qui a émigré aux États-Unis, sont anglophones. Et du coup, ils arrivent à comprendre les paroles de gens qui défendent une autre vision, une autre réalité que la leur, et présentent la réalité de ce que eux et leur famille ont vécu en tant que réfugiés dans leur pays. Et je trouve qu'il y a un langage commun dans le hip-hop, et je voulais, à travers cette expo, partager l'explosion de créativité qui y a dans cette culture.
Vous avez beaucoup écouté de groupes d'Europe, de rap issus du monde arabe. La scène y est très dynamique depuis la fin des années 80, entre rap engagé et rap de club. Quelle originalité apportent les rappeurs des pays du Maghreb à la scène hip-hop internationale, d'après vous?
Alors, je vais citer un exemple. Un rappeur qui n'est pas dans la bande-son de l'expo, mais un rappeur égyptien qui s'appelle Abusive, par exemple, récemment, mélange vraiment, il y a pas mal de rappeurs qui le font maintenant, mélange leur musique traditionnelle au rap et font, on va dire, un rap qui est à la fois inspiré du rap américain, puisqu'il y a de la trap d'Atlanta et du rap plus boom-bap de New-Yorkais, mais à la sauce des pays arabes, avec des samples et des musiques utilisées de Abdel Halim Hafez, de Mohamed Abdel Wahab, et qui sont des morceaux classiques, et je trouve ça vraiment magnifiquement bien fait. Puis dans l'écriture, c'est vrai que aussi l'actualité du monde arabe est plutôt grave et on a des sujets graves abordés dans les textes, mais malgré ça, beaucoup de sourires, beaucoup de créativité, beaucoup de couleurs sur les murs, notamment de Yazan qui fait ses beaux graffitis sur les murs de Beyrouth.
À ce sujet, peut-être un mot sur le rappeur tunisien Emino qui en mars a rejoint l'État islamique, un rappeur qui, je le rappelle, n'est pas du tout représentatif de l'état d'esprit du milieu du rap en Tunisie. Vous connaissez cette histoire, j'imagine?
Je la connais, mais malheureusement, c'est vrai que dans les infos, notamment quand on montre des gens qui font des attentats ou qui rejoignent l'État islamique, on montre leurs vidéos de jeunesse et il y en a pas mal rappé. Ça permet de s'apercevoir d'un truc, c'est pas le rap qui mène à l'engagement, c'est que le rap est la culture commune de beaucoup de gens dans les quartiers du monde entier, et malheureusement certains embrassent la culture hip-hop et y restent et d'autres la quittent et vont vers d'autres horizons. Je suis prêt à parier qu'ils exècrent le rap maintenant.
Je peux imaginer.
On parlait de Graff tout à l'heure. Quelle spécificité géographique peut-on noter entre le Graff français, arabe ou américain ?
Il y a beaucoup de collaborations, mais par exemple dans le Graff arabe qu'on peut découvrir dans l'expo à travers les pièces de Minouane, de Yazan et de pas mal d'autres graffeurs qui sont exposés, c'est l'introduction de la calligraphie dans le graffiti, et notamment cette pièce qui est sur les murs d'une rue de Beyrouth où on voit la chanteuse traditionnelle Oum Kulsoum. Et je crois que la phrase dit « Nos ancêtres ont inventé le zéro, nous sommes tombés dedans ». Donc des mots forts et qui frappent fort. Et donc chaque lieu et chaque graffeur va avoir sa particularité et la culture du pays dans lequel il vit va influer sur sa création artistique, autant dans le graff que dans le rap, que dans le DJing, que dans le beatmaking, c'est vraiment, et même dans la danse, on a vu des fois des pas de danse qui étaient incorporés de danse traditionnelle. Je trouve que c'est une culture qui est une culture de l'instantané et qui peut être le miroir du monde. Et très souvent on nous dit, mais le rap c'est une culture violente, mais c'est bling bling. J'ai dit, mais le monde est comme ça. Et en fait, le rap et la culture hip hop vous renvoie le reflet de ce que le monde est.
Gilles Lapouge, un commentaire à tout ce que vous venez d'entendre?
Non, tout ce qu'il dit est passionnant, et surtout cette effervescence qu'il y a là-dedans et qui ne cesse pas, parce que ça se renouvelle sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et moi, je trouve ça absolument formidable.
Et au Brésil, les rappeurs brésiliens ne feraient pas lire d'envie des Américains, puisqu'ils ont des ventes, pour parler bêtement de chiffres. Le Brésil peut vivre en autarcie, et certains rappeurs vendent plus que pas mal de rappeurs américains. C'est un pays énorme.
Dans la première salle donc de l'Institut du Monde Arabe à Paris, on peut voir des archives de votre groupe et en particulier la cassette du premier album autoproduit, Concept, ouais, désormais introuvable. Vous vous souvenez des conditions de cet enregistrement?
On avait enregistré, le Massia Sound System nous avait demandé d'enregistrer sur un 4 pistes qu'il possédait à l'époque. Et on avait fait des enregistrements dans la pièce, je me rappelle, les voix étaient faites dans la pièce du chauffe-eau et la console était placée dans une cuisine, ma foi, fort peu rangée, assez en bordel. Et on avait mixé chez un des membres du Massia Sound System qui s'appelle Jali. Ça avait été, et composé tout chez Imhotep. À cette époque-là, le membre d'IAM qui s'appelle Imhotep était encore instituteur, donc il enseignait la journée dans les quartiers nord et la nuit il faisait les musiques avec nous. Le pauvre, je sais pas quand il est arrivé à se reposer, mais on avait quelques années d'écart avec lui, on était un peu des enfants turbulents et Imhotep a été la lumière de la sagesse dans le groupe. Bon, on a dû l'user, hein, complètement, le pauvre.
Alors on perçoit dans l'exposition l'importance des machines. Que doit le son IAM à des machines telles que, alors attention, pour moi c'est comme l'anglais, c'est une langue étrangère, le Korg Mirage, la EMU SP12, la Lindrum ou encore la Studio 440. Vous parlez de machines cruciales.
Il y a des machines cruciales. La Studio 440, on l'a très peu employée parce que c'était la rivale de la SP1200. Donc là,
voilà. On dirait tant.
Voilà.
Dites.
Alors, c'est que chaque machine définit à une époque un son du hip-hop. Par exemple, quand on évoque la Lindrum dont on a parlé, pour moi, c'est avant 1986. Ce sont des sons très boîte à rythme. À partir de la SP12 est un sampler. Ça a permis à des tas de gens de prendre les sons qui étaient dans les disques de soul music et de les reproduire et de rejouer des rythmiques de rap, mais avec des batteries de James Brown, des batteries de Curtis Mayfield, de Stevie Wonder. Et donc, où le rap est devenu beaucoup plus organique. Et ça correspond un peu au son d'IAM. Donc le son d'IAM apparaît à l'époque où le sample apparaît. Et donc pour IAM, on va dire MPC 60, MPC 3000, SP12.
Voilà. Transition sur le son. Comme à tous nos invités, on vous a demandé un son qui vous a marqué. Voici ce que vous avez choisi.
Luce la luna in cielo e io luce d'amori. Fuoco che si consuma come lume cori. L'anima ghiaccia, dolorata, non si dà pace, ma chi mal l'ha notata.
Vous allez emballer les OS Fez, je pense.
À la chèque, italien, napolitain à la chèque.
Ah ouais, alors, ce sont. C'est du folklore sicilien, en fait. Brucia la terre. Et c'est une musique qui a été. Qui figure dans le film Le Parrain, c'est le thème principal du film. Et d'un point de vue personnel, c'est la musique sur laquelle ma sœur a dansé avec mon père quand elle s'est mariée. Et j'ai perdu mon papa depuis. Voilà.
Dernière question, Benoît.
On recevait il y a quelques mois le directeur artistique de Skyrock, Laurent Bounot. Il relevait que l'une des spécificités du rap marseillais était l'emploi de la troisième personne qui donne à vos textes une dimension plus proche de la chronique journalistique, alors que la majorité des rappeurs disent plutôt « je ». Vous êtes d'accord avec son point de vue ?
Moi, j'emploie beaucoup le « je ». Je ne veux pas le contredire sur ce point de vue-là. C'est parce que le « je » permet quelque chose. C'est quand la personne écoute le texte, elle peut endosser le rôle de la personne qui prend la caméra et qui voit la scène. Le « il » est très périlleux parce qu'il devient très vite didactique et ça fait plus facilement donneur de leçon. Donc, dans IAM, le « je » est beaucoup plus présent que le « il ». En tout cas, dans notre groupe, c'est l'inverse pour notre groupe même.
Il n'y avait pas la jeune fille, il y avait la pluie.
Pour un gamin de 17-18 ans, c'était le rêve ultime.
C'était un vertige.
Merci à nos invités. Gilles Lapouge, Nuit tranquille à Bellem, apparu aux éditions Artaud. Akhenaton, hip-hop du Bronx aux rues arabes. C'est jusqu'au 26 juillet à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Et je signale que votre album Je suis en vie est disponible sous le label Def Jam Recordings. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain...
Alors, une mode pour chaperon rouge androgyne, pour mini-femme. La mode, c'est une affaire de sous et une mystification. Je dis pour vendre, pour mystifier. L'industrie de la mode se sert d'un instrument d'une magie puissante, le mannequin.
Demain, ce sera une émission La mode, mais pas que, avec Olivier Sayer et Valérie Thoragnon. La désannonce, Elsa.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Benoît Lagan, Zoé Sfez, Aïssat Wendoy et Elsa Béranger. Journal de la culture Adrien Azeli, chronique Jean-Marc Lalanne, à la prise de son Jean-Guilain Meige et Clément Berman, et à la réalisation Thomas Beau. Vous pouvez réécouter l'émission pendant 1000 jours et la podcaster sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur Facebook et Twitter.